Je vous remercie aussi de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, je vais plutôt vous proposer un retour d'expérience, donc essayer de faire un peu le point sur la manière dont on fonctionne aux éditions de la Sorbonne, qui pas du tout dans l'idée de donner un modèle, mais plutôt de poser un peu les pratiques et les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien pour la gestion de nos archives. Donc, les éditions de la Sorbonne, c'est la structure éditoriale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a été créée en 1971 et à l'origine, c'était un service commun aux universités Paris 1, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris-Sorbonne, Paris 4, qui n'existe plus, et Paris 5. En 1995, le service il a réintégré uniquement l'Université Paris 1 et il a été rattaché à la direction de la recherche et de la valorisation. Donc on n'a pas encore de partenariat avec le service des archives de l'université, mais ça ne saurait tarder. Et en revanche, on a d'autres partenariats, notamment avec la BIS, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, qui effectue pour nous une sorte de deuxième dépôt légal après celui de la BNF pour les ouvrages publiés. Mais là, l'idée, c'est plutôt de parler des documents qui amènent à faire un livre, plutôt que les livres eux-mêmes. Mais on pourra revenir là-dessus, si vous voulez. Donc, pour préparer cette table ronde, j'ai essayé de m'interroger un peu sur cette pratique en fait, qu'on fait plus ou moins, j'imagine, un peu comme vous tous, au quotidien, qui s'apparente peut-être plus à la sauvegarde de documents qu'à un réel archivage. Et je suis allée me promener un petit peu chez les archivistes, qu'on a déjà entendu, chez les chercheurs qui essayent de réfléchir à ces questions-là également. Et pour réaliser qu'en fait, c'était quand même terra incognita. C'est un cadre légal que je découvre quasiment en même temps que vous. Je suis allée consulter le référentiel de gestion des archives de la recherche qui a été créé par le groupe de travail sur les archives scientifiques de la section Aurore de l'Association des archivistes français auquel Aurélie a participé. Et je suis allée regarder un peu les catégories du CINES aussi, puisqu'il y a des solutions d'archivage de la production scientifique qui sont proposées. Et moi, ce qui m'est apparu, c'est qu'en tant qu'acteur de l'édition, en tant que producteur, comme on dit pas mal en préparant cette table ronde, il y a des questions de définition qui sont assez intéressantes et complexes. Puisqu'en fait, les catégories des archivistes ne vont pas forcément être les nôtres. Et déjà, moi, je me posais la question, qu'est-ce qu'on entend par archives de l'activité éditoriale? Est-ce que c'est des données scientifiques? Est-ce que c'est des archives publiques courantes, intermédiaires, comme on vient d'entendre parler? Quand on fabrique un livre, on manipule à la fois, bien sûr, des données, qu'elles soient publiées ou pas, in fine. On utilise et on crée des archives administratives tout au long du processus d'édition. Et on crée une ressource ensuite, bien sûr, de bibliothèques, qui sont les livres et les revues. Je n'ai pas précisé, aux éditions de la Sorbonne, donc on publie à peu près 35 ouvrages par an, plus une quinzaine de numéros de revues. Voilà. Pour moi, il est évident que donc ma pratique de l'archive en tant qu'éditrice, elle relève de deux aspects très concrets qui sont d'une part conserver les documents qui sont essentiels à ma pratique, à la pratique de mon activité au quotidien, donc sans finalité, comme on a déjà évoqué tout à l'heure, sans penser à la dimension de conservation. Et en fait, je vais privilégier tout ce qui, moi, me permet de faire correctement mon travail pour lequel je suis payée tous les jours et donc de fabriquer des livres. Et que ce soit moi ou bien évidemment quelqu'un qui me remplace, puisque c'est plutôt sur le poste d'éditrice aux éditions de la Sorbonne et pas sur le poste Audrey Auria. Et donc le deuxième aspect important pour moi dans la pratique de l'archivage, c'est la possibilité de mettre en place des processus de travail qui permettent de fournir, au final, des documents optimisés pour leur conservation, donc des documents les plus pérennes possibles. Et donc là, se pose la question, bien sûr, du papier et du numérique, et des formats, évidemment, des formats de documents. Donc, n'étant pas archiviste, même si j'ai une formation d'historienne comme un collègue également, et je crois que je n'ai pas les seuls dans cette salle, j'avais envie de proposer une distinction très empirique qui correspond donc à cette pratique quotidienne entre archives chaudes, entre guillemets, et archives froides. Donc on est très loin du tableau de gestion bien normé qu'on a vu. Mais donc les archives chaudes, ce serait tout ce qui a trait aux livres que je suis en train de fabriquer à un moment donné. Donc c'est-à-dire tous les fichiers textes, les fichiers iconographiques qui sont utilisés ou fabriqués aux éditions pour la première publication. Et tout ce qui a trait à la diffusion et à la vente, notamment la comptabilité, les stocks, etc. Et puis après, il y a toutes les archives froides, entre guillemets à nouveau, qui, en gros, tout ce qui a servi à la construction du livre, mais qui n'a plus d'utilité en soi-même une fois le livre publié, mais qui peuvent être quand même utiles à moyen terme. Je pense notamment aux échanges avec les auteurs. Par exemple, si l'un d'entre eux fait une réclamation sur une modification de son texte une fois le livre paru et qu'il conteste, et donc il faudra aller retrouver qui l'a apporté, est-ce que c'est une coquille, etc. Ou ça peut être utile aussi à plus long terme pour un travail plus scientifique d'histoire du travail éditorial, académique. Une petite remarque qui est un peu une question que je pose pour plus tard, c'est que ces documents, par exemple pour tout ce qui a trait à la comptabilité, on va conserver bien sûr tout ce qui est devis, factures, bons de commande, etc. Mais comme nous, on est un service de l'université, c'est également conservé au service financier de l'université. Et dans ce cas, je me demande, c'est toujours la question pour plus tard, qui conserve, est-ce que les deux services doivent conserver ou...
Non. Vous conservez pour vos besoins peu de temps, en fait.
Ok.
Et si c'est garanti que ces éléments sont conservés donc, par le service qui, en fait, a pour mission de gérer tout ce qui est financier, c'est eux qui vont gérer l'éventuelle conservation, le versement ou le tri. En l'occurrence, au-delà du quitus de la Cour des comptes, il y aura destruction des factures, par exemple. Mais c'est environ 10 ans. Mais vous, non. Sauf pour vos besoins pratiques.
C'est ça. Donc on revient à la fois sur l'usage très concret dans l'intérieur, enfin, au sein du service. Oui. Parce que
il y avait un tableau de gestion, on dirait en observation, les factures originales sont conservées au service gestion financière. Donc ce serait des destructions.
Okay. Merci. Alors, très concrètement, du coup, pour préparer cette table en tout genre, je me suis ensuite promenée parmi mes collègues aux éditions pour... découvrir, sans le découvrir vraiment, que malgré le fait qu'on soit une petite équipe, puisqu'on est quatre à l'édito, et qu'on travaille en open space, donc on est censé se parler sans cesse, on avait quand même des pratiques assez diverses, qu'on a tenté de rationaliser à deux reprises. Et j'évoque très rapidement ces deux cas, parce qu'ils me semblent assez caractéristiques du moment où on se pose la question d'un coup, ah tiens, ce serait bien si on avait des archives. Donc le premier, c'est lors de mon arrivée et de ma collègue Marie Brunet en 2011. En fait, on a remplacé au pied levé une équipe qui a été décimée, voilà, et qui n'avait jamais pensé partir et qui n'avait jamais pensé l'archivage. Donc on a trouvé de tout partout et en fait on retrouvait rien nulle part, c'était infernal. Donc notamment des piles de CD-ROM non étiquetées qu'il a fallu trier, par exemple, en les mettant un à un dans un ordinateur et en essayant de noter au moins l'ISBN quand on retrouvait que c'était des fichiers imprimeurs. Mais bon, le temps de faire ça, un collègue arrivé 5 ans plus tard qui essaye de s'en servir, le CD-ROM est foutu, donc on revient sur les formats de conservation. Beaucoup de dossiers incomplets, des demandes de devis sans les devis reçus, beaucoup de tirages papier également qui s'entassaient, des manuscrits non paginés, non reliés, enfin bon, tout un tas de documents qui, puisqu'ils n'étaient pas classés, devenaient proprement inutilisables. Donc on a dû reconstituer à partir des échanges mails, donc d'où l'utilité de garder les adresses e-mail professionnelles. Et puis, bien sûr, avec la grande bienveillance de nos auteurs et de nos prestataires, un peu tout. Voilà, on a recollé ces morceaux, essayé de reconstruire des processus de travail, mais ça a pris énormément de temps. Alors, et c'est quelque chose qu'on aimerait bien ne pas, une situation qu'on aimerait bien ne pas laisser au prochain. Et le deuxième cas, c'est que maintenant l'équipe s'est un peu étoffée, et en revanche, les locaux ne se sont pas agrandis. Donc, un projet de déménagement est à l'étude, et là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on emmène ? Dans quelles conditions, sachant que nous, en plus, on est sur deux sites parce qu'on a nos stocks dans un autre site de l'université, dans lequel on envoie des cartons d'archives, qui m'a fait réaliser qu'on les envoyait là et pas au service d'archives de l'université. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir dans le circuit de transport de ces cartons. Et bon, voilà, donc, c'est pour poser, montrer que. Quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte qu'on fait très mal les choses, mais qu'il est toujours temps d'appliquer de bonnes pratiques. Bon, alors, rapidement, j'ai encore le temps ? Ouais. Allez. L'essentiel de notre archivage, il s'opère donc en fonction de nos besoins, avec une homogénéisation des pratiques, on va dire, qui se fait en fonction de la chaleur des archives, si je reprends la distinction. Donc en gros, elles vont être assez bien triées pour tout ce qui est toutes les archives dont on se sert tous les jours, quasiment. Et puis plus c'est ancien, plus ça devient compliqué. Pour le stockage des documents numériques, donc on a testé plusieurs solutions, puisque l'université ne nous en proposait pas. J'espère qu'il n'y a personne de la DSI de Paris 1 ici. Donc on a fini par opter pour une Dropbox professionnelle, dont j'ai appris qu'elle me valait quelques années de prison, si on découvrait ça. Bien sûr qu'on avait discuté cette question de stocker des données à l'étranger, et notamment des données à caractère personnel, puisque nous avons nos contrats avec les auteurs qui sont stockés dedans. Mais voilà, c'est la solution intermédiaire. Je tends un peu le bâton pour me permettre, mais j'espère que vous serez clément. Bon, le grand avantage, c'est qu'on a 2 Tera, un historique sur 4 mois, et qu'on double ça, bien sûr, d'une sauvegarde quotidienne sur disque dur. On travaille sur Mac, comme vous le voyez, donc part-time machine. Donc tous les jours, on fait quand même des copies en local. L'intérêt de ce serveur, que j'aimerais bien qu'on transfère en effet ailleurs, c'est que c'est un super outil de dialogue avec les partenaires intérieur. Au sein de l'équipe, on s'échange sans cesse des documents de cette manière-là, mais aussi avec les partenaires extérieurs, puisque ça permet d'échanger des jeux d'épreuves avec les auteurs, des documents divers et variés. J'avais prévu de vous décrire cette Dropbox très précisément, mais peut-être c'est un peu fastidieux. Je voulais simplement dire que sur cette question du nommage, les dossiers Martine, etc., on en a eu plein. Mais en même temps, c'est difficile, une fois encore, de trouver la bonne pratique, parce que, par exemple, pour les ouvrages, le plus logique pour nous, ce serait d'indiquer l'ISBN, puisque c'est l'identifiant unique, et il se mettrait dans l'ordre, etc. Sauf que je défie quiconque de connaître par cœur l'ISBN de son catalogue. Donc, finalement, on a opté pour un hommage nom de l'auteur, mot-clé du titre, tout ça classé dans des sous-dossiers par année, et ensuite avec un classement par auteur. Bon, qui a ses limites aussi quand on ne connaît pas le catalogue et qu'on arrive et qu'on doit découvrir les dossiers, mais voilà, on essaye de respecter un petit peu ces règles de l'ergonomie, de ne pas avoir des noms de fichiers trop longs, des dossiers trop nombreux et des documents trop nombreux à l'intérieur. Donc si je prends une archive numérique d'un livre ou d'un numéro de revue, le classement, on va dire le plus classique, ça va être un dossier livre avec donc des fichiers InDesign, IDML, parce qu'on travaille sur un logiciel propriétaire également, InDesign, IDML, PDF et XML, et les fichiers sources de l'iconographie. La même chose pour la couverture, et puis un dossier imprimeur dans lequel on va garder tous les échanges et notamment toutes les modifications bien sûr effectuées au dernier moment pour les impressions papier avec les BAT, etc. Voilà. Après, sur la question du papier, ça reste aussi très problématique, comme on l'a déjà un petit peu évoqué. Parce que on a tous ces tirages papier qui peuvent être très utiles au jour le jour. Par exemple, ma collègue de la diffusion, il faut que je lui mette le papier pour qu'elle annonce un ouvrage à l'office, sinon elle oublie. Voilà, c'est notre méthode interne, mais je ne pense pas que ce soit non plus une archive impérissable. Et pour les ouvrages surtout, le tri est bien sûr problématique, puisque quelle version conserver, depuis la version qui nous a été déposée pour le comité éditorial, donc un Word imprimé qui potentiellement a été annoté par les experts sollicités pour le comité, jusqu'aux versions finales, au dernier tirage de contrôle avant l'envoi à l'impression. De manière très empirique, une fois encore, j'ai tendance à conserver uniquement, in fine, la version qui a été relue par un relecteur professionnel ou en interne, puisqu'elle a occasionné déjà une dépense d'argent du service. Et puis c'est là où la majeure partie de la valeur ajoutée éditoriale, à mon sens, est visible. Mais de manière très pratique, une fois encore, j'ai tendance à garder la pile de dossiers pendant quelques semaines, le temps que l'auteur feuillette l'ouvrage, que ses collègues lui fassent des retours et qu'on attende qu'il n'y ait pas de problème. Et puis une fois qu'il n'y a pas de problème, à la poubelle. Il n'y a pas le choix. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Merci.